enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Mon thème ce matin sera « Connaître Dieu ». Alors vous allez me dire, c'est ambitieux. C'est ambitieux. Mais voyez-vous, je me rends compte en lisant les Écritures que des hommes sont devenus amis de Dieu. Et vous n'êtes pas ami de quelqu'un sans le connaître. Il est important, il est déterminant de connaître Dieu. Peut-être au milieu de ce vaste auditoire, certains me diront « Frère, ça fait 20 ans qu'on vient, j'espère que nous le connaissons ». Eh bien, nous pouvons avoir parfois le sentiment de le connaître tout en le méconnaissant. Et cette méconnaissance peut fausser notre relation avec lui, peut fausser notre attitude, notre comportement. J'ai beaucoup aimé ce matin ce que le Seigneur disait à une personne au travers d'une des paroles. Tu te poses la question, quelle est la mesure de ton amour pour moi ? Et j'ai écouté ce qui avait été dit et ce rappel. Eh bien, ton amour pour moi se mesure à l'amour que tu auras pour ton prochain. Il est facile de déclarer « j'aime Dieu que je ne vois pas », mais à quoi ça sert-il si je n'aime pas mon prochain que je vois ? On peut donc avoir le sentiment de connaître Dieu, mais sans pour autant avoir une vraie relation reposant sur qui il est en réalité. Suivant votre parcours de vie, votre approche de Dieu a également pu être faussée. Qu'est-ce que je veux dire par là ? L'autre jour, j'étais assis avec un homme dans le bureau qui n'était pas venu pour un entretien, il était venu pour parler de certaines choses au sujet de la future construction que nous allions faire. Et puis, il me disait la chose suivante. Depuis mon enfance, le Dieu que l'on m'a présenté était un Dieu sévère, un Dieu méchant, un Dieu qui, reprend et qui n'attend qu'une chose, c'est d'envoyer en enfer ceux qui n'ont pas été exactement ce qu'il attendait d'eux. Voilà l'image que j'ai gardée de Dieu, un Dieu qui punit et qui punit constamment. En fait, l'image qu'il avait, lui, de Dieu, c'était cette image d'un Dieu dictateur, d'un Dieu qui fait peur. Alors, me dit-il en réaction, mais aujourd'hui, je ne peux plus concevoir cela, pour moi, Dieu n'est plus qu'amour. C'est juste, mais attention, de quoi parlons-nous ? De quel amour parlons-nous ? Ce Dieu dur, ce Dieu intransigeant, a été le moyen par lequel les hommes et les femmes ont exercé un pouvoir religieux pendant des siècles et un pouvoir politique en même temps. Résultat des courses, entre autres, au niveau politique, on est arrivé un jour à cette décision qui n'est pas forcément une mauvaise idée, c'est la séparation de l'Église de l'État en 1905. Mais il y a eu également un retour de balancier. Aujourd'hui, vous l'entendez un peu partout, et je ne suis surtout pas là pour faire de la politique. Je suis là pour vous annoncer l'Évangile. Mais il y a un vrai débat. Certains s'émeuvent profondément de quelques déclarations du président de la République. On a installé une laïcité, mais cette laïcité me semble s'être éloignée de l'objectif qui était celui du législateur à l'époque. Et ces temps derniers, le président a eu, pour moi, le courage de relever ces choses et de remettre donc les Français devant une certaine réalité. Mais ça réagit. Cela réagit, je voyais l'autre jour un magazine, d'ailleurs que j'ai acheté parce que je l'ai lu, que tu as acheté, mais que je t'ai envoyé acheter. Ah, c'est toi qui l'as payé. Bien, Jean-Claude, tu pourrais la rembourser, s'il te plaît, merci. Dans lequel, en gros titre, Eh bien, il est marqué simplement « Sarko, fou de Dieu ». Voilà à quoi nous en arrivons. Nous en arrivons au stade où on ne peut plus rien exprimer sans qu'on passe pour des fous de Dieu. Mais il a dit des choses intéressantes dans un exposé récent qu'il a fait. Et je voudrais simplement relever l'une ou l'autre chose. Cela étant, dira-t-il, la laïcité ne saurait être la négation du passé. Elle n'a pas le pouvoir de couper la France de ses racines chrétiennes. Elle a tenté de le faire, elle n'aurait pas dû. Une telle déclaration, dans notre pays, c'est courageux. Et voilà ce qu'il continue à dire. C'est pourquoi nous devons tenir ensemble les deux bouts de la chaîne, assumer les racines chrétiennes de la France et même les valoriser, tout en défendant la laïcité enfin parvenue à maturité. Aux réactions que je peux lire, je ne suis pas encore sûr qu'elles soient arrivées à cette maturité-là. Il considère également ce qui a été dit dans l'encyclique en disant que l'espérance est l'une des questions les plus importantes de notre temps. Depuis le siècle des Lumières, l'Europe a expérimenté beaucoup d'idéologies. Elle a mis successivement ses espoirs dans l'émancipation des individus, dans la démocratie, dans le progrès technique, dans l'amélioration des conditions économiques et sociales, dans la morale laïque. Et un peu plus loin, bien sûr, fonder une famille, contribuer à la recherche scientifique, enseigner, se battre pour des idées, en particulier si ce sont celles de la dignité humaine, diriger un pays, cela peut donner du sens à une vie. Ce sont ces petites et ces grandes espérances qui, au jour le jour, nous maintiennent en chemin, pour reprendre les termes même de l'encyclique. Mais elles ne répondent pas pour autant aux questions fondamentales de l'être humain sur le sens de la vie et sur le mystère de la mort. Elles ne savent pas expliquer ce qui se passe avant la vie et ce qui se passe après la mort. Ces questions sont de toutes les civilisations et de toutes les époques, et ces questions essentielles n'ont rien perdu de leur pertinence, bien au contraire. Les facilités matérielles de plus en plus grandes, qui sont celles des pays développés, la frénésie de consommation, l'accumulation de biens, soulignent chaque jour davantage l'aspiration profonde des femmes et des hommes à une dimension qui les dépasse, car moins que jamais, elle ne la comble. Il nous faut avoir le courage aujourd'hui d'exprimer à nouveau clairement la place également qu'à la spiritualité dans la vie d'un homme et d'une femme. Que l'on puisse dire « je ne suis pas croyant », c'est la liberté de chacun. Chacun a le droit de dire « je crois ou je ne crois pas ». Chacun a le droit même de changer de religion, nous disent certains textes, en particulier celui sur les droits de l'homme. Mais nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, lorsque ces choses-là sont dites, et sont dites clairement, elles promettent encore, eh bien, beaucoup d'articles, elles promettent encore beaucoup de réactions. Pourquoi ? Parce que, au plus profond, ces réactions sont le résultat de l'approche d'un Dieu qui était un Dieu, pardonnez-moi, mais totalitaire. Un Dieu que l'on a présenté comme un Dieu oppresseur. Un Dieu que l'on a utilisé et instrumentalisé. Et c'est en réaction à l'instrumentalisation de Dieu, à des fins parfois tout autres que celles pour lesquelles, eh bien, il est venu à la rencontre de l'homme, qu'aujourd'hui nous sommes dans cette réaction-là et que nous avons cet effet balancier. Cet effet balancier se traduit également différemment. Si vous avez cette approche de Dieu, d'un Dieu dur, eh bien, toute votre relation avec lui sera marquée par cela. Vous aurez peur de lui. Mais quand la parole de Dieu nous parle de la crainte de Dieu, elle ne nous parle pas de peur. Je me rends compte que même dans l'Église, il y a des hommes et des femmes dont l'approche est une approche dictée par la peur. Ils ont toujours encore en eux-mêmes ce Dieu sévère. Ils sont parfois, eh bien, sous une forme d'oppression, constamment en train de craindre qu'ils n'ont pas fait exactement ce qu'il fallait et qu'à cause de cela, le ciel, comme les Gaulois d'Astérix, allait leur tomber sur la tête. Frères et sœurs, le Dieu que nous servons n'est pas ce Dieu-là. Il n'est pas ce Dieu-là et nous allons le voir ensemble assez courtement puisque j'ai pris l'engagement de terminer à l'heure. Quelqu'un dit bravo dans ce saint auditoire. Je vais quand même une fois vous faire le coup de l'apôtre Paul qui a prêché toute une nuit, hein. De l'autre côté, eh bien, en réaction à ce que je disais tout à l'heure, on a eu entre autres une révolution en mai 68. Et mai 68, eh bien, c'est le rejet non seulement des institutions politiques, mais également religieuses. Il est interdit d'interdire. On en est arrivé à un libéralisme total. Libération des mœurs. Libération sexuelle. Vous vous souvenez? Oui, moi j'étais encore petit, c'est vrai. J'étais pas sur les barricades à cette époque-là, j'avais 3 ans. J'étais dans les barricades, c'est-à-dire dans le parc à jouets. Oh mais je vois là un Guyanais. Qu'est-ce que... On pourrait les accueillir. Lève-toi, ils étaient tout au départ de l'œuvre en Guyane. Lève-toi voir moi. Soyez les bienvenus. Soyez vraiment les bienvenus. On est très heureux de vous voir. Donc moi, j'étais pas sur les barricades, j'étais derrière les barricades. Ma mère avait un espèce de parc. Vous vous souvenez de ces parcs en bois avec des barreaux? C'est resté. Ces barreaux m'ont marqué. Je me souviens lorsque petit... Je pleurais en tenant ces barreaux. Si je continue, vous allez pleurer avec moi. Non, c'était pas exactement ça. Non, mais j'étais parfois terrible. D'ailleurs, tellement terrible qu'une de mes sœurs un jour m'a attaché au pied de la table pour que je sois tranquille. Voilà, ça fait du bien. On est donc arrivé à l'autre extrême, l'autre côté du balancier. Pour les uns, c'était il n'y a plus de Dieu. C'était la libération de toute chose. Et puis des chansons ont commencé à paraître, comme Paul Naref, on ira tous au paradis. Et puis Dieu est tellement bon que finalement, eh bien, tout le monde sera au ciel. Mais ça, c'est une approche de Dieu qui est, elle, également faussée. C'est un Dieu qu'on a voulu rendre tellement bon. Vous savez, on a voulu le rendre tellement bon qu'on en a fait un Dieu bonbon. Et cela a emmené une forme de laxisme face au péché. À ce moment-là, ces barrières morales, ces repères dont la société a besoin aujourd'hui. On nous le dit. Lorsque le secrétaire d'État était là l'autre jour, il disait que la société a à nouveau besoin de repères. Et il comptait également sur l'Église pour ramener des repères dans la société. Et je crois que la parole de Dieu nous donne des repères qui rendent l'homme et la femme heureuses, qui rendent les familles heureuses et qui rendent la société heureuse. Dieu n'est pas venu pour asservir l'homme, il est venu pour libérer l'homme. Mais nous parlons d'une libération dans la sainteté, d'une libération dans le respect des uns et des autres, d'une libération qui ne se traduit pas par un égoïsme frénétique, cherchant juste une chose à consommer et parfois et souvent à consommer l'autre. Nous parlons d'une liberté qui nous délivre des chaînes du péché. Jésus est venu à cette fin-là. Alors ce Dieu bonbon, autant que je me rends compte dans l'Église, avoir au milieu de nous des gens qui n'ont qu'un Dieu sévère, qu'un Dieu qui nous attend avec une bombe atomique au coin de la rue, j'en vois d'autres, alors eux, le Seigneur, finalement, il aurait pu être hippie, hein. C'est-à-dire que, est-ce que c'est aussi grave que cela? Et puis finalement, on a une attitude, un comportement face au péché qui entraîne bien des personnes parce que leur conscience est anesthésiée par une vision et une approche fausse. Eh bien, on amène plusieurs à vivre dans le péché tout en louant le Seigneur. Un jour, j'avais affaire à un théologien qui me disait, de toute façon, pasteur, en parlant des relations sexuelles, si deux êtres s'aiment, qu'ils couchent avant le mariage ou après le mariage, peu importe, c'est comme les trois pieds d'un tabouret, pourvu qu'ils y soient tous les trois. Ça, c'est pas le concept de la parole de Dieu. Il y a donc aujourd'hui, face à la conscience du péché, à cause d'une vision qui n'est pas juste de Dieu, un relâchement, un laxisme, et ça également dans les églises de type charismatique et évangélique. En d'autres mots, je suis en train de vous dire que le modèle de la société, d'une manière ou d'une autre, a pénétré les consciences, et qu'à cause de cela, nous avons perdu une vision juste de qui est Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de revenir à lui afin de le connaître. Afin de le connaître tel qu'il est. Parce que de cette connaissance découlera la qualité de notre relation, la justesse de notre relation. De cette connaissance de Dieu, eh bien découlera la manière dont vous allez vous comporter face à lui, mais la manière dont vous allez également, eh bien, mener votre vie. Mon frère, ma sœur, c'est extrêmement important. Je ne voudrais pas au milieu de nous des hommes et des femmes qui vivent dans la crainte. Je ne voudrais pas au milieu des hommes, de nous des hommes et des femmes qui n'ont qu'un Dieu sévère, un Dieu qui punit. Mais le Dieu que vous nous annoncez, c'est le Dieu avec lequel on vous a, eh bien, marqué au fer rouge il y a des années. De l'autre côté, je ne voudrais pas ce laxisme dans lequel Dieu est tellement bon qu'il pardonne tout, alors laissons-nous aller. L'apôtre Paul le dit, c'est pas parce qu'il y a la grâce que nous pouvons pécher. Au contraire, la grâce démontre que le péché était tellement, tellement grave et tellement important que le seul moyen de l'effacer, c'était, eh bien, qu'un don soit fait. Et ce don-là, c'est Jésus-Christ notre Sauveur. Mais la grâce nous démontre la gravité du péché. Elle ne l'amoindrit pas, au contraire. Elle nous montre qu'il était impossible de le payer. Elle nous montre qu'il était impossible de faire quoi que ce soit pour, eh bien, racheter ce que nous avions mal fait. C'est ça ce que la grâce est en train de nous dire. La grâce nous mène non pas dans le péché, elle nous mène en dehors du péché. Alors, ce matin, j'aimerais nous rappeler deux points essentiels. Dans le livre des Proverbes, il est dit, « Puisque vous rejetez au chapitre 1, versets 25 à 33, tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. » Un peu plus loin, « Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. » Et puis, dans le dernier des versets que j'ai cités, « Mais celui qui m'écoutera reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Qui voudrait vivre tranquille et sans craindre aucun mal ? Chacun d'entre nous. Cependant, ce texte nous rappelle également pourquoi Dieu ne se laisse pas trouver, pourquoi parfois la tempête est là. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ça, c'est le résultat du laxisme. C'est le résultat de ce relâchement. C'est le résultat de ce Dieu bonbon. C'est le résultat de ce Dieu qui pardonne tout, n'importe comment. C'est le résultat d'une approche qui n'est pas juste, qui nous emmène alors à agir de manière à ce que Dieu ne peut plus nous bénir. Dieu ne peut plus nous conduire. Dieu ne peut plus nous diriger. Frères et sœurs, nous nous posons souvent la question, pourquoi dans le livre des Actes, nous lisons l'Église qui voyait des miracles, qui voyait des prodiges, qui voyait la gloire de l'Éternel, qui voyait la bénédiction de l'Éternel? Pourquoi nous ne vivons plus les mêmes choses? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? En tant que serviteur de Dieu, je me la suis déjà posée souvent. Je dis, Seigneur, ta parole dit que tu es le même. Est-ce que tu peux concevoir cela? Ta parole dit que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque je lis le livre des Actes, La gloire de Dieu se manifestait. Et quand nous parlons de la gloire de Dieu, nous parlons essentiellement de la gloire de Dieu au travers des signes, des miracles et des prodiges. Les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, etc. Mais j'aimerais vous dire que du temps du livre des Actes, il y avait toutes sortes de miracles. Il y avait aussi des miracles qui nous surprendraient si cela devait nous arriver ce matin. Écoutez, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété, retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein, c'est-à-dire laisser croire que tu as tout donné alors que tu as retenu une partie? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui dit, « Dis-moi, est-ce un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enseveli ton mari, sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Me permettez-vous de dire que ce sont deux morts miraculeuses? Ces deux morts sont aussi miraculeuses que l'aveugle qui pouvait voir. Ces deux morts sont autant un miracle, une intervention divine, que n'importe quelle guérison. Et la Bible nous dit, à ce moment-là, qu'une grande crainte saisit le peuple de Dieu. Une prise de conscience, Dieu est saint. Une prise de conscience, Dieu est juste. Une prise de conscience, vous allez me dire, mes frères, par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure, le Dieu que tu nous présentes ressemble à la première partie. Ce n'est pas de ce Dieu-là que je vous parle. Je vous parle d'un Dieu juste ce matin. Il y eut une prise de conscience. Pourquoi il y avait la gloire de Dieu à ce stade-là? Parce que le peuple de Dieu se sanctifiait. Plus le niveau de sainteté est grand, plus la crainte de l'Éternel est profonde, plus l'Éternel est présent. Et sa présence se manifeste. Cependant, pouvons-nous par nous-mêmes fabriquer cette sainteté? C'est impossible. Je ne puis et vous ne pouvez fabriquer cette sainteté. Qu'est-ce que tu disais? Je vais cramer mon costume. Je ne peux et vous ne pouvez. Je ne peux et vous ne pouvez. Sans quoi nous allons faire des règles. Nous allons établir des lois. Et parce que nous nous soumettons à ces lois, nous aurons le sentiment de lui être agréable. Mais nous serons toujours encore loin de ce qu'il est. Nous serons encore sur le mauvais chemin. Non, il y avait dans l'église primitive une conscience d'abord et premièrement, et ce sera là mon premier aspect, une conscience de l'amour de Dieu. Vous allez me dire, Samuel, où est-ce que toi tu vois de l'amour? Tu nous parles de deux êtres qui perdent la vie, même si c'est miraculeux, ils la perdent quand même. Et puis tu nous parles d'un Dieu qui ne se laisse pas trouver. Quand Dieu nous reprend, la parole nous dit qu'il manifeste également son amour. Très souvent nous avons du mal à le concevoir. Nous avons du mal à l'accepter. Nous avons du mal à l'intégrer, mais ce matin, permettez-moi de vous redire que Dieu est amour. Écoutez, il est dit dans 1 Jean 4, 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dis à ton voisin, Dieu est amour. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu a de l'amour. Je suis en train de vous dire que Dieu est amour. C'est pas la même chose. Dieu est amour. L'essence même de Dieu, c'est l'amour. Si je vous disais que Dieu a de l'amour, ça n'aurait pas la même portée que le fait que Dieu est, c'est sa nature. Il ne peut être autrement. Dieu est amour. Et son amour se manifeste à l'égard de ceux qu'il aime, également lorsqu'il les reprend. Ça, nous avons du mal à le concevoir. La vision que nous avons de l'amour a souvent été défigurée par le concept même que nous avons de ce qui est de l'amour ou qui ne l'est pas. Souvenez-vous, celui qu'il corrige, il le corrige parce qu'il le considère comme un fils, comme une fille. Écoutez, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. C'est parce que papa Jean m'aimait qu'il m'a châtié. Comment ça, pas assez ? Chers internautes, j'ai là un élément perturbateur dans le premier rang. Et puis il dit, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés. Aujourd'hui, quand on dit qu'on corrige les enfants, il y a un numéro qu'on peut faire. Les gamins le connaissent, hein, c'est le 119, oui. Ça y est, déjà une jeune fille, elle le connaît. Un jour, j'ai dit à mon fils, viens dans le bureau, on va régler ça. Je fais le 119, hein. Mais je lui ai tout de suite dit qu'après, il mangera le téléphone. Vous savez, c'est drôle. Aujourd'hui, on est dans une société, faut plus corriger. On dirait que quand on donne la fessée, ça atrophie le cerveau, comme si le cerveau était à ce niveau-là. Oui, il y a des enfants battus. Ça, c'est pas de la correction. Oui, il y a des enfants qui ont souffert, qui ont eu affaire à des parents malades. Mais ça, ça n'a rien à voir avec la correction. Celle dont Dieu nous parle est une correction qui est le résultat de l'amour. Et je vous l'ai déjà dit, quand papa Jean me corrigeait, il me prenait, il m'expliquait, il me baissait le pantalon. Et il me disait, tu vois Samy, ça me fait mal au cœur, mais il faut que je le fasse. Et moi, je me disais, si ça te fait autant mal au cœur que ça... T'as qu'à arrêter, hein, moi ça me gêne pas. Je voudrais quand même pas que tu souffres dans ton cœur à cause de moi. Mais parce que je t'aime, je te corrige. Cependant, quand Dieu corrige, soudain, on est mal à l'aise. Face à Ananias et Saphira, un malaise s'installe. Alors que, au-delà de ces deux hommes, au-delà de cet homme et cette femme, il y avait tout un peuple qui allait où suivre les voies de l'Éternel ou s'en détourner. Dieu est amour, c'est fondamental que nous le comprenions. Nous étions dans le péché déjà, il nous a aimés. Permettez-moi de nous le rappeler. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est le résultat de l'amour de Dieu. Tu peux ce matin avoir la certitude, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Mais écoute-moi bien, il n'est pas otage de son amour. Dieu m'aime signifie également que tout ce qu'il va faire, il va le faire pour mon bien. Rien n'arrive sans que l'Éternel ne le permette. Et tout ce qu'il permet n'a qu'un objectif, c'est l'amour qu'il a pour vous et pour moi. C'est cela la finalité. C'est parce qu'il nous aime. C'est vrai que quand nous étions corrigés, nous ne comprenions pas que nos parents nous aimaient. Est-ce que certains parmi vous ont été corrigés ? Dominique, non ? Lorsqu'un père aime son enfant, quand je corrige un de mes fils, ou une, maintenant ça devient difficile. J'ai essayé de corriger un jour Josué, ça devient difficile. Il est aussi grand que moi. Il est musclé. Comme moi. Ça n'a pas été facile. Donc, il y a une chose que j'ai retenue. Mieux vaut les corriger et éduquer quand ils sont petits, afin que quand ils sont grands, tu n'aies pas de problème. Parce que c'est très difficile de rattraper l'arbre une fois qu'il est tordu. Mon frère, ma soeur, mais l'objectif que j'avais chaque fois que j'en corrigeais un, j'ai parfois été maladroit, c'est vrai. Mais le seul objectif, c'était l'amour que j'avais pour lui. C'était l'amour que j'avais pour lui. Je voulais qu'il soit libre. Je voulais qu'il ne soit plus, tenu par ce qu'il pouvait faire. Je voulais qu'il apprenne, afin que ce ne soit pas les autres qui lui apprennent, afin que ce ne soit pas la souffrance qui le lui enseigne plus tard. L'amour, Dieu nous appelle ses enfants. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il ne l'a pas connu. Vous êtes enfants de Dieu. Pouvez-vous, vous savez, être enfant de Jean et de Suzanne, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi, je lui ai dit, si un jour il fallait revenir sur terre, je signe tout de suite pour qu'il soit de nouveau mon père. Et tous les quatre, je suis sûr, Karine, elle signe aussi. Même qu'elle essaye de se mettre devant moi là, sur la liste. Pourquoi ? Parce que nous l'aimons. Nous l'aimons. Pourtant, il nous a corrigés. Et les mains du papa Jean, c'est une raquette de tennis. Mais nous l'aimons. Nous l'aimons parce que nous savons qu'il cherchait notre bonheur. Maintenant, je m'imagine, j'ai le papa Jean et j'ai Dieu comme père qui me dit tu es son fils. Tu es son fils. Tu es sa fille. Béa. Pouvez-vous vous imaginer être le fils, la fille de Dieu ? Il y a peut-être ici des gens qui n'ont pas eu de parents. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Mon frère, ma sœur, peut-être as-tu eu des parents durs. L'Éternel te recueillera. Être l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu. Je crois que nous ne le mesurons pas assez. Être l'enfant de Dieu. Frères et sœurs, nous ne le mesurons pas assez. Maintenant, permettez-moi d'arriver à mon deuxième point. Il y aurait tant de choses à dire sur l'amour, de tellement de manières différentes, sous de tels angles différents que je ne saurais le faire ce matin. Mais j'aimerais que vous partiez d'ici en sachant une chose, Dieu est amour. Et en vous disant une deuxième chose, parce qu'il est amour, alors je dois aimer mon prochain comme moi-même. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que l'on verra que vous êtes mes disciples. Deuxièmement, de la même manière que Dieu est amour, Dieu est juste. Si vous n'avez une approche de Dieu qu'au travers de l'amour, et souvent un amour galvaudé, un amour déformé, un amour défiguré, qu'est-ce qu'on appelle amour aujourd'hui ? Je vous pose la question. On parle de sexualité, on parle d'amour. On parle d'un homme qui trompe sa femme, on parle encore d'amour. Non mais attendez, et pour sa femme et ses gosses ? Vous trouvez que c'est de l'amour ? On parle d'une femme qui avorte par amour pour son mari. Ah bon, c'est de l'amour ça ? De quel amour parlons-nous ? Notre amour est complètement défiguré. Nous n'avons pas une approche juste. Dieu est amour. Et nous avons besoin de son amour en nous. Et son amour en nous nous permet alors de voir sa justice, car si vous séparez l'amour de la justice, vous n'avez plus d'amour. Justice et amour vont de pair. Comme il est dit que Dieu est amour, il nous est dit que Dieu est juste. C'est son essence. Il est juste. Il ne peut pas être autrement que juste. Que diriez-vous d'un juge qui jugeant, un serial killer qui a tué une dizaine d'enfants, les a violés, au moment du verdict, déclare: j'ai tant d'amour pour cet homme que je vous rends votre liberté. Comment réagiriez-vous? Vous crieriez scandale, injustice, corruption. Et c'est juste. Parce qu'il faut qu'il y ait de la justice dans l'amour. Et un Dieu d'amour sans justice n'est plus un Dieu d'amour. Mon frère, ma sœur, Dieu est fondamentalement juste. Il nous, le terme hébreu signifie équitable, droit. Il est équitable, il est droit. Alors, nous nous posons souvent des questions quant à sa justice, suivant ce que nous voyons. Encore l'autre jour, quelqu'un m'interpellait et me disait: mais où il est ce Dieu juste? Regardez ceci, regardez cela. Jérémie, chapitre 12, verset 1. Jérémie dit: tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Vous vous êtes jamais posé cette question? Jérémie, tout en étant conscient que Dieu est parfaitement juste, se pose quand même la question: mais pourquoi? L'autre jour, nous étions en face d'une personne qui elle-même était souffrante et elle exprimait cette incompréhension, et je peux la comprendre. Elle disait: mais pourquoi moi je dois souffrir? Pourquoi moi je dois, s'il n'y a pas une intervention, mourir, alors que des méchants, des gens pervers, eh bien vivent, et on a l'impression qu'ils sont dans l'abondance. Le psalmiste, déjà au psaume 73, se posait la même question. Et tout d'un coup, cette réponse vient: c'est quand j'ai regardé la fin des méchants. C'est quand j'ai regardé leur fin, que j'ai plongé mes yeux dans les tabernacles éternels. C'est alors que ce qui m'était difficile de comprendre, eh bien, s'est éclairé à mes yeux. Mon frère, ma sœur, le riche et Lazare, nous pourrions crier à l'injustice. Pauvre Lazare, il se nourrit des miettes de la table du riche. Il fallait qu'il y en ait un sacré tas, hein, de miettes pour nourrir un pauvre. Moi, je ne sais pas si c'est de mes miettes que vous devriez vous nourrir un jour. Je vous assure, jusque ce que les miettes tombent par terre, c'est waouh. La Bible nous dit qu'il était couvert d'ulcères. La Bible nous dit que les chiens venaient lécher ses plaies. Et chacun d'entre nous pourrions dire: mais Dieu, c'est injuste, comment peux-tu permettre ça? J'aimerais vous dire la finalité que Dieu a fixée. C'est pas qu'il y ait le ciel sur la terre, mais c'est que vous et moi, nous soyons au ciel. Les choses se feront là-bas. Là-bas. Et regardez la fin. Le riche meurt. Il est dit: il fut enseveli. Point. Le pauvre mourut aussi. Et les anges vinrent et l'emportèrent dans le sein d'Abraham. Pendant que l'autre était là, en proie à de cruels tourments, il s'adresse au père Abraham. Et voilà que tout d'un coup le tableau s'inverse. Dieu a-t-il manqué d'amour à l'égard de Lazare? Non. Mais la vision que Dieu a pour toi n'est pas une vision à court terme, c'est une vision d'éternité. Et si toi tu fonctionnes toujours avec une vision à court terme, tu te trompes. Ta foi sera une foi fragile. Ta foi sera une foi fragile parce que quand Dieu te fera du bien, tu seras pour lui. Quand tu auras le sentiment que les choses sont plus difficiles, tu te révolteras contre lui. Mon frère, ma sœur, la vision que Dieu a pour nous est une vision d'éternité. Et quand il nous dit que nous sommes ses enfants, c'est ses enfants pour toujours. Pour toujours. Au ciel, papa Jean sera plus mon papa, comme sur la terre. Il n'y aura ni plus homme ni femme. Les choses seront différentes, mais nous serons tous enfants du Père. Elles demeureront éternellement. Arrêtons de dire à Dieu ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Dieu est juste, c'est fondamental. À partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à le célébrer quoi qu'il arrive. À partir de ce moment-là, vous savez également que votre vie doit être sérieuse avec lui. Parce qu'autant il bénit, autant il saura reprendre. À partir de ce moment-là, nous considérons le péché à sa juste valeur. Mon frère, ma sœur, nous ne pouvons pas être légers à l'égard des choses de Dieu, ni à l'égard de Dieu lui-même. Mais dans sa justice, il accordera également la récompense à ceux qui sont fidèles. Ça, c'est aussi la justice de Dieu. Il est dit dans 2 Timothée 4, verset 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Hébreux 6, 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Il n'oublie rien. Rien. Dans sa justice, il vous rendra toutes choses. Vous n'êtes pas sauvés par vos œuvres, vous êtes sauvés par grâce. Mais il y aura le jugement des œuvres et elles vous seront rendues. Et elles vous seront rendues. Mon frère, ma sœur, toi qui dans le secret sers le Seigneur, toi que personne ne voit, toi qui n'es jamais sur une estrade, toi qui peut-être le fais à la maison, toi qui le fais, eh bien, en venant ici, dans la semaine, personne ne te connaît, personne ne t'applaudit. Dans sa justice, il te le rendra. Est-ce que vous vous souvenez de l'épouse du frère Muller? Son témoignage, vous souvenez-vous quand elle est arrivée au ciel? Elle est, pour ceux qui n'étaient pas là, et pour les internautes par ailleurs, excusez-moi, c'était la femme d'un pasteur, et suite à, je ne sais plus si c'est un arrêt cardiaque ou une maladie, je ne sais plus pour quelle raison, eh bien, elle s'est arrêtée de vivre pendant une demi-heure, où elle était morte. Et dans sa grâce, Dieu l'a ramenée à la vie. Et voilà ce qu'elle raconte. Elle dit, lorsque je suis arrivée, j'ai vu un livre avec mon nom dessus, Lotti. Et puis ce livre a été ouvert. Et là, à ma grande surprise, et elle le disait avec beaucoup d'émotion, était écrit tout ce que j'avais fait pour le Seigneur. Entre autres, quand j'avais 7 ans, j'étais déjà dans l'église et les vieilles personnes mettaient toujours des coussins pour pas avoir froid. Maman, Kouglouf. Et elle disait, je mettais ces coussins. Et puis il mettait aussi ces coussins devant les chaises quand il fallait prier. Elle dit, c'est moi à 7 ans qui mettais les coussins. Et quand j'étais décédé, que le Seigneur m'a montré ma vie, il me rappelait les petits coussins que j'avais mis. Rien n'était oublié. Rien ne sera oublié car il est juste. Sur sa justice, tu peux t'appuyer. Sur sa justice, tu peux compter. Les événements ne se déroulent pas toujours comme tu l'imagines et parfois peuvent paraître dans un premier temps injustes. Mais tu peux compter sur sa justice. Tu peux compter sur lui. Il te fera justice. Sa justice, c'est son essence. Son amour, c'est son essence. Ne séparez jamais les deux. Vous fausseriez, eh bien, l'approche que vous avez de lui. Souvenez-vous, il est pleinement amour. C'est sa nature. Et il est pleinement juste. Alors, il y a des récits comme celui de Joseph qui semblent pétri d'injustice, vous ne trouvez pas? Le brave Joseph, il a une vision. Il la déclare à ses frères, résultat des courses. Ils veulent le tuer, ils le jettent dans un puits, ils le vendent aux Amalécites, il est chez Potiphar, la femme de Potiphar veut coucher avec lui, il refuse par intégrité. Résultat des courses, il se retrouve en prison. Et puis on a l'impression que c'est l'histoire de l'injustice. Mais en finalité, il finit comme premier ministre. La justice de Dieu s'exercera à son égard et Dieu l'emmènera là où il voulait l'emmener, par les chemins qu'il choisira. Alors mon frère, je ne sais pas quel est le chemin qu'il choisit pour toi. Je ne sais pas toujours quel est le chemin qu'il choisit pour moi, mais je sais une chose, il est juste. Et il ne perd personne en route. Et il n'oublie personne en route. Aujourd'hui, après le récit de la sœur Lottie, je me réjouis quand, avec Papa Jean au début, quand l'église était pionnière, on avait une église à quelques kilomètres d'ici, et puis souvent il fallait qu'on parte parmi les premiers, parce qu'avant de faire le culte, il fallait encore ranger les chaises, il fallait balayer, il fallait... Et qu'est-ce que j'ai râlé ? Si j'ai râlé, c'est pas pris en compte. J'étais enfant, je comprenais pas pourquoi c'est nous qui devons faire le trajet, faire encore ces choses-là. Mais j'ai vu une chose, le papa Jean me disait toujours, « Samuel, réjouis-toi, tu as le droit de balayer. » Eh ben moi, je veux laisser ce droit à qui le veut, hein. Tu as le droit de ranger les chaises. Réjouis-toi, Samuel. Tu le fais pour Jésus. J'ai mis des années à comprendre ça. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, peu m'importe ce qu'il faut faire, je le fais pour Jésus. Ranger une chaise, on le fait pour Jésus. Ce qui est caché, on le fait pour Jésus. Et on a de la joie. Et on a de la joie. Et on a de la joie. Et peut-être... peut-être que je serai chef balayeur là-bas, promu au premier rang, pourvu que j'ai servi mon Seigneur. Ne te sens pas oublié, il est juste. Fermons nos yeux un instant.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.